Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le 9 juin 1837 s'éteignait à Rome la bienheureuse Anna Maria Taigi. Pendant des années, cette humble mère de famille qui avait reçu le don de prophétie avait été la conseillère des papes, les guidant presque au jour le jour dans les dangers immenses que courait la papauté depuis la Révolution. Et en même temps, elle était une épouse et une mère de famille admirable à qui notre Seigneur a pu dire « Je t'ai destinée à être connue du monde entier comme un exemple de pénitence et comme le modèle des femmes mariées ». Profitons de ce temps après la Pentecôte, dominé par les fêtes des saints, pour mieux connaître cette femme extraordinaire qui est la patronne des mères de famille. Anna Maria Taigi est née à Sienne, en Toscane, le 29 mai 1769. Son père était pharmacien, mais un revers de fortune obligea ses parents à déménager à Rome et pour vivre, à s'engager tous deux comme domestiques. Anna Maria n'avait que 6 ans. Et donc c'est la pauvreté que la Providence choisissait pour la préparer à sa mission. Sa mère commença par la placer chez des religieuses qui la préparèrent à la première communion, puis à la confirmation. Elle entra ensuite en apprentissage pour apprendre les tâches ménagères, ce qui lui permet de devenir femme de chambre. Elle se mariera à l'âge de 21 ans avec un domestique honnête et sérieusement chrétien. Malheureusement, la vanité, le désir de plaire entraîna rapidement Anna Maria dans une vie superficielle de divertissement, de dissipation, même si elle ne péchait pas gravement. Mais notre Seigneur avait d'autres vues sur elle. Se rendant un jour à la basilique Saint-Pierre avec une toilette mondaine, elle fut touchée par la grâce et elle eut honte de sa vie. Notre Seigneur mit alors sur son chemin un religieux, servite de Marie, auprès duquel elle fit une confession générale et qu'elle prit pour directeur spirituel. Dès lors, elle n'était plus la même. Elle abandonna toutes ses tenues mondaines et elle s'habilla d'une robe toute simple. Elle commença une vie de pénitence que son confesseur dut même modérer. Et elle résolut de rentrer dans un tiers-ordre. Un tiers-ordre est une association de fidèles vivant dans le monde et qui se mettent sous la direction d'un ordre religieux pour tendre plus facilement à la perfection chrétienne, selon une règle approuvée par le Saint-Siège et bien sûr compatible à la vie dans le monde. Anna Maria entra dans le tiers-ordre des religieux trinitaires, un ordre fondé au XIIIe siècle à Rome par Saint Jean de Matha pour le rachat des chrétiens captifs des musulmans. Entraînée par notre Seigneur vers la perfection de la vie chrétienne, Anna Maria devint rapidement un modèle d'épouse et de mère. Assez souvent, son mari rentrait le soir de mauvaise humeur à cause de difficultés dans son travail. Il était même violent. S'il ne trouvait pas tout à son goût à la maison, il entrait en fureur, au point de saisir la nappe sur laquelle était préparé le dîner et de tout jeter en l'air. Tout devait être prêt à la minute, la soupe chaude dans la soupière, la chaise en place. Mêmes exigences pour ses habits et pour tout. Alors que faisait Anna Maria? Est-ce qu'elle criait? Est-ce qu'elle claquait la porte? Est-ce qu'elle disait qu'elle en avait assez de cette vie-là? Non, parce que l'impatience, cela vient de l'égoïsme. La charité, qui est une vertu surnaturelle, va au-delà des réactions de la nature. Elle s'efforce de regarder le prochain à la lumière de la foi et de faire au prochain le bien que notre Seigneur veut qu'on lui fasse. Alors, au-delà des défauts de son mari, Anna Maria voyait d'abord celui qui, dans le plan de Dieu, était le chef du foyer et qu'elle devait respecter en tant que tel, quels que soient ses défauts. Ensuite, elle voyait aussi dans son mari une âme pour laquelle notre Seigneur avait versé tout son sang. Elle offrait alors à notre Seigneur les souffrances de cette vie commune difficile pour que cette offrande retombe en grâce pour son époux. Et elle rivalisait de délicatesse à son égard. Ainsi, son mari trouvait toujours dans son épouse les consolations dont il avait besoin. Elle essayait de toujours mieux connaître ses goûts pour le contenter et ses peines pour les adoucir. Dès qu'il mettait le pied sur le seuil de la porte, elle devinait s'il était contrarié. La journée a été pénible, n'est-ce pas? Eh bien, assieds-toi, repose-toi autant que tu veux, je fais tout, ici tout va bien. Évidemment, une telle attitude avec le temps gagne les cœurs les plus endurcis, et c'est ce qui s'est produit. Écoutons le témoignage que fit son mari après la mort de sa femme. J'ai vécu avec cette femme bénie environ 48 ans. Jamais de sa part une parole de dégoût, jamais un dissentiment. Nous avons vécu en continuelle paix de paradis. Sa grande délicatesse a fait qu'il n'y a jamais eu de différend sérieux entre elle et moi. Elle savait m'avertir charitablement et je lui dois de m'être corrigé de quelques défauts. Elle faisait les avertissements avec une charité incomparable. Épouse modèle, Anna Maria fut en même temps une mère admirable. Elle eut 7 enfants de ce mariage, 4 garçons et 3 filles. 3 moururent cependant en bas âge, comme cela était hélas fréquent à l'époque. Pendant ses grossesses, elle arrêtait toutes ses pénitences. Après chaque naissance, elle allaitait elle-même tous ses enfants. Dès que possible, elle leur apprenait à prier et leur enseignait les premières vérités de la foi, veillant plus tard à ce qu'ils reçoivent bien régulièrement les sacrements. Après le dîner, la famille récitait le chapelet et on lisait une courte vie du saint du jour. Puis les enfants se mettaient au lit après avoir reçu la bénédiction. Le dimanche, ils visitaient les malades à l'hôpital. Anna Maria savait aussi être sévère quand il le fallait. Un jour, elle imposa un jeûne à l'une de ses filles, déjà grande, pour une faute qu'elle avait commise. En même temps, elle savait détendre tout le monde, par exemple en organisant un goûter à la campagne. Et ce jour-là, elle arrêtait toutes ses pénitences pour ne pas être à charge à tout le monde. Les épreuves de la famille ne manquèrent pas. Alors que le foyer avait à peine de quoi vivre, Anna Maria accueillit avec générosité et soigna chez elle pendant plusieurs années ses parents âgés et très malades. Les Français ayant occupé Rome, son mari perdit momentanément son salaire, car la famille chez qui il était domestique n'avait plus les moyens d'entretenir du personnel. Enfin, une famine redoutable se déclara dans Rome. Anna Maria passa une partie de ses nuits à faire du travail de couture à domicile pour acheter la nourriture quotidienne de la famille. En même temps, notre Seigneur se plaisait à la combler de faveurs extraordinaires en rapport avec la mission qu'il voulait lui confier pour la Sainte Église. Un jour qu'elle se flagellait dans son oratoire pour s'unir à la flagellation de notre Seigneur, une coutume qui s'est surtout répandue dans les ordres religieux, elle vit un mystérieux soleil. Au milieu se trouvait une dame divinement belle et assise, avec au-dessus d'elle une couronne d'épines. Le soleil représentait notre Seigneur Jésus-Christ, la femme assise signifiait la sagesse éternelle qu'est notre Seigneur, et la couronne d'épines rappelait la passion. Dans ce mystérieux soleil, Dieu faisait voir à Anna Maria les événements contemporains, notamment les complots maçonniques contre l'Église. Dans une Rome en proie à la subversion, elle faisait avertir le pape, par exemple, ou tel cardinal, d'éviter telle promenade ou telle visite, car les loges en voulaient à leur vie. Elle indiquait qui pouvait être reçu en audience papale, qui il fallait éloigner ou qui il fallait surveiller. Elle annonçait aussi des événements impossibles à prévoir naturellement et qui se réalisaient des semaines après. Jamais la clairvoyance d'Anna Maria ne fut prise en défaut. Elle put ainsi communiquer des renseignements très précieux aux papes Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI. Elle lisait aussi dans ce soleil l'état des consciences, le sort éternel des âmes. Elle connaissait même certains événements du passé, rappelant par exemple au pape Pie VII un événement précis de son enfance que lui seul pouvait connaître. On peut dire que le livre de la science divine s'ouvrait pour elle dans le mystérieux soleil. Comme les saints voient tout en Dieu, elle voyait tout dans ce miroir. Et ce phénomène extraordinaire dura 47 ans. La conséquence fut qu'une foule de visiteurs composée de pauvres, de princes, de prêtres, d'évêques, de cardinaux, accouraient chez elle pour lui demander conseil, elle qui aurait voulu rester cachée et ignorée. En lui faisant cette grâce, notre Seigneur voulait en même temps que cela eût des conséquences dans sa vie personnelle. Il voulait surtout qu'elle s'offrît à sa suite comme victime. Ainsi, quand elle voyait un déluge de maux prêt à fondre sur l'Église, elle s'offrait à tout souffrir pour l'écarter. Quand elle voyait une âme sur le bord de sa perte éternelle, elle s'immolait pour la sauver. Sa vie devint alors un martyr continuel. Elle subit les plus douloureuses maladies, les infirmités les plus compliquées, des tentations contre la foi, quand ce n'était pas le démon qui lui inspirait des pensées de désespoir ou qui suscitait des campagnes de calomnie contre elle dans Rome. Mais Anna Maria soutenait tout cela avec une patience invincible. Outre le secours précieux qu'elle fut pour la Sainte Église, elle obtint de nombreuses conversions de francs-maçons. Des prêtres dévoyés se convertirent par ses prières et consolèrent l'Église par leur retour. Anna Maria Taigi rendit son âme à Dieu le vendredi 9 juin 1837, après 7 mois d'une maladie supportée avec la plus grande patience. Le lundi, une apparition céleste l'avait averti que notre Seigneur viendrait la chercher 4 jours plus tard. Elle reçut alors les derniers sacrements. Elle eut un dernier entretien avec son mari, puis elle fit venir ses enfants. Elle leur recommanda la fidélité à Dieu, la dévotion à la Sainte Vierge et de ne jamais omettre la récitation du chapelet en commun. Puis elle les bénit. Elle mourut pendant que 2 prêtres récitaient à son chevet les prières de la recommandation de l'âme à Dieu. Sa mort bouleversa la ville de Rome. Des miracles éclatèrent très vite à son intercession, qui poussèrent le pape Pie IX à introduire un procès de béatification. Elle fut béatifiée par le pape Benoît XV le 20 mai 1920 en la fête de la Sainte Trinité, pour rappeler son appartenance au tiers ordre trinitaire. Son corps incorrompu repose maintenant à Rome en l'église Saint Chrysogone. Les mères de famille peuvent l'invoquer, elle est leur patronne, elle est très puissante. En cette messe, confions-lui toutes les mères de famille qui fréquentent cette église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.